Secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
On a demandé de marquer un peu sport en guerre.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Canu 102.2 et c'est l'heure du Canu Info. Et aujourd'hui au Canu Info, on va commencer par une rubrique féministe en vous parlant de la Pride de nuit qui aura lieu aujourd'hui.
Et puis on ira en Suisse puisqu'aujourd'hui c'est la grève des femmes.
Et puis on ira du côté de l'IVG où finalement il n'y aura peut-être pas de pas en avant.
On relaiera également le communiqué pour la marche des fiertés, une autre marche des fiertés, le 15 juin, c'est demain cette marche.
Et ensuite on vous fera le récit, donc c'est un portrait d'une femme en jaune.
Et puis nouvelle rubrique mouvement social où on abordera la grève du bac dans l'éducation nationale.
Et puis on ira du côté des urgences avec un reportage sur la récente mobilisation.
On enchaînera en vous parlant de l'augmentation de l'utilisation des armes de la police, plus 200% en 2018 et des nouvelles commandes qui arrivent.
Et puis on vous lira l'appel de la Pride qui aura lieu cette nuit.
On fera même mieux.
Oui.
On fera même mieux parce que normalement on a une envoyée spéciale qu'on aura en direct de la Pride de nuit un petit peu avant 20h pour nous dire où elle est, ce qui se passe, c'est quoi l'ambiance là-bas, tout ça, tout ça.
Et puis on terminera par le traditionnel agenda des jours qui viennent.
Il est 19h02, bonne écoute du Canu Info.
Canu Info.
Et dans ce Canu Info, on avait envie de commencer par vous parler de cette Pride de nuit qui a lieu aujourd'hui dans 1 heure, dans 57 minutes exactement. Alors, on a trouvé un appel sur Rébellion qui dit « Nous, déviants déviantes, hors normes, décadents et décadentes, bizarres, étranges, queer, on n'est pas là pour être acceptés, on n'est pas là pour être tolérés. Assez de se faire tabasser la nuit, ce soir on se la réapproprie. » Assez d'être récupéré pour nos politiques LGBT, on veut pas de votre hypocrisie à gerber. Assez de faire du fric sur notre gueule, votre char Mastercard, on le sbeule. Assez de criminaliser le travail du sexe, l'État ne nous protégera jamais autant que le latex. Assez d'être invisibilisé au sein de notre communauté, on a toutes plein d'autres identités. Mais alors qu'est-ce que ces personnes revendiquent? Elles revendiquent notamment du fait de souffrir de savoir que les personnes intersexes sont mutilées et plus largement dépossédées de leur corps. Elles souhaitent leur autonomie et leur autodétermination. Assez que des travailleuses du sexe soient marginalisées et invisibilisées, notamment à cause des lois abolitionnistes telles que celle de la pénalisation des clients en 2016. Nous nous battons pour que les personnes séropositives, dont un certain nombre est trans et migrantes, ne soient plus expulsées par l'État français et ainsi privées de leurs droits et de leurs soins. Le 10 octobre 2019 sera organisée à Lyon la conférence de reconstitution du Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Celle-ci rassemblera l'OMS, les États et sera présidée par Macron. Et du coup, ces personnes sont outrées de l'incohérence des actions de l'État qui expulse des personnes séropositives tout en prétendant une politique de soutien à ces mêmes personnes. Enfin, du coup, l'appel dénonce l'inégalité entre les couples cis hétéros et non cis hétéros, couples homo, couples trans, dans l'accès à la PMA et à l'adoption, conséquence de l'hétéronormativité. Donc, si toi aussi tu es fabuleuse, solidaire et en colère, si tu souhaites participer à la manifestation en mixité choisie sans cis hétéros dites diadique et avec toutes les travailleuses du sexe à nos côtés, si tu ressens le besoin de visibiliser nos luttes par des actions déterminées, n'attends plus et rejoins la Pride de nuit, du coup ce soir le 14 juin, place Guichard à 20h.
vous en avez peut-être, comme moi, entendu parler aujourd'hui pour la première fois. C'est la grève des femmes en Suisse. Pourtant, cette grève, elle se prépare depuis des mois et des mois. La première fois que des femmes se sont réunies pour commencer à écrire un manifeste, que vous pouvez retrouver sur le site officiel de la grève féministe, c'était en août 2018. Passez sous silence toute cette préparation. Si les associations féministes et les syndicats ont choisi la date du 14 juin pour cette journée de mobilisation, ce n'est pas un hasard. Il y a 28 ans, le 14 juin 91, 500 000 femmes étaient descendues dans la rue en Suisse pour réclamer déjà la fin des inégalités. Elles revendiquaient donc l'égalité et protestaient contre les violences sexistes, toujours d'actualité dans le pays et dans le monde entier. 28 ans plus tard, et depuis plusieurs mois, plusieurs collectifs de femmes de divers milieux se mobilisent pour rendre cette nouvelle grève immense et importante. En Suisse, cette grève a été impulsée par des femmes syndicalistes après une énième discussion au Parlement sur un projet de loi sur l'égalité salariale qui n'a abouti à rien. Néanmoins, l'impulsion ne vient pas des directions syndicales, mais plutôt de la base. Elles ont d'ailleurs plutôt été forcées à rejoindre le mouvement sous pression de leurs militantes, plutôt à s'expérimenter, même si ça a très vite pris chez les femmes les plus jeunes. Certaines étaient donc déjà là, en 91, lors de la première grève des femmes en Suisse. En septembre 2018, il y a eu cette énorme manifestation à Berne qui a réuni 22 000 personnes. Pour la petite histoire, chaque deux ans, la plus grande organisation syndicale, l'USS, organise une manifestation nationale. Il s'agit avant tout d'une démonstration de force, mais souvent avec un contenu politique très institutionnel. Donc du coup, comme chaque deux ans, l'USS a choisi un thème, et cette année-là, c'était l'égalité salariale. Il n'y avait pas la volonté de parler de la grève qui se prépare aujourd'hui, mais l'idée, c'était simplement de mettre en avant cette revendication qui pouvait plaire à tout le monde. Le mouvement a fini par presque troller cette manifestation en créant un tronçon appelant à la grève féministe en 2019, ce qui a fait apparaître clairement leur revendication comme bien plus large et radicale. Ça s'est donc fait littéralement au nez et à la barbe des centrales syndicales qui ne voulaient, elles, parler que d'égalité salariale. En fait, le mouvement est né en Suisse romande et Suisse italienne, et la Suisse allemande a rejoint le mouvement un peu plus tard. Actuellement, quasiment tous les cantons suisses et les grandes villes ont un collectif organisant la grève. La manière dont le mouvement s'est construit, notamment la démocratie interne, la décentralisation et surtout la totale liberté laissée au collectif, avec juste le manifeste comme garde-fou, font que c'est un mouvement à la fois très large mais aussi très radical. Le manifeste y regroupe 19 revendications. Elles concernent un peu tout, le rapport au corps, le rapport au travail, notamment l'inégalité salariale, mais la question du travail reproductif est également très développée. Si on ne trouve pas le terme anticapitalisme dans le texte, beaucoup de revendications tournent autour du monde du travail. Déjà parce que ce mouvement est très syndical, mais aussi parce que les enjeux autour des inégalités sur les lieux de travail sont encore loin d'être résolus. Il n'y a pas de réelle protection contre les inégalités salariales, les protections contre le sexisme sur le lieu de travail sont peu ou mal mises en place, et la dévalorisation sociale et salariale des métiers typiquement féminins existe. Donc le manifeste n'est sans doute pas parfait, mais c'est le fruit d'un travail politique de longue haleine, sans doute parfois éreintant, comme toute écriture collective et politique, menée par un grand nombre de personnes. Au début, il y avait a priori des propositions islamophobes ou abolitionnistes, mais ce genre de choses ne sont pas passées, et donc ça aussi c'est le fruit d'un travail qu'on imagine fastidieux, mais nécessaire. Ça permet de garder ce manifeste ouvert à une organisation politique sur les rapports coloniaux, sur le travail du sexe, etc. Donc pour finir, je vous en lis un petit bout du début. Nous toutes, femmes, c'est-à-dire toute personne qui n'est pas un homme cisgenre, soit un homme qui se reconnaît dans le genre qui lui a été assigné à la naissance, avec ou sans partenaire, en collectivité, avec ou sans enfant, avec ou sans emploi, et quelle que soit la nature de l'emploi, en bonne santé ou malade, avec ou sans handicap, hétéro, LGBTIQ, des plus jeunes aux plus âgés, nés ici ou ailleurs, avec des cultures et origines différentes, nous appelons à une grève féministe et des femmes le 14 juin 2019. Nous sommes celles à qui on a confié le travail domestique, éducatif et de soins à la maison, sans lequel la société et l'économie ne fonctionneraient pas. Nous nous occupons et préoccupons des enfants, des parents âgés, mais nous manquons d'argent et de temps. Dans un système patriarcal et capitaliste qui hiérarchise le masculin et le féminin, nous sommes celles qui sont exposées au sexisme, aux discriminations, aux stéréotypes et aux violences, sur le lieu de travail, dans la formation, dans la rue, à la maison et dans les institutions étatiques. Nous voulons l'égalité dans les faits et nous voulons décider nous-mêmes de nos vies. Pour cela, nous ferons grève le 14 juin 2019. La semaine dernière, dans ce Canu Info, on vous annonçait pour une fois une bonne nouvelle. Le délai de recours à l'IVG s'allongeait de 2 semaines, passant de 12 à 14. Mais c'était trop beau pour être vrai. Cette semaine, rétropédalage. Le Sénat, qui avait adopté le 7 juin cet amendement qui allongeait de 2 semaines le délai de recours à l'IVG, a supprimé cette disposition le 11 juin pendant une seconde délibération. Le Sénat étant une chambre du Parlement pas forcément progressiste, on n'est pas vraiment surprise. Lors de la seconde délibération, le 11 juin, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a justifié la suppression de cet amendement, 205 voix pour et 102 contre, par le fait que, je la cite, « les conditions dans lesquelles le Sénat s'est prononcé n'étaient pas satisfaisantes, compte tenu des circonstances particulières du vote et parce que le projet de loi concerne l'organisation des soins ». On nous dit donc que seuls 22 sénateurs étaient présents ce vendredi pour le vote de cet amendement, qui a été adopté à 12 voix contre 10, et que ça n'est pas satisfaisant. Peut-être pas suffisant le nombre de sénateurs, oui, mais pourquoi ces conditions sont moins satisfaisantes que pour tous les autres votes qui ont eu lieu la même journée, par exemple qui ne sont pas annulés eux. Encore, pour l'exécutif, donc, les discussions relatives à l'IVG devraient avoir leur place dans un cadre plus adapté, selon la ministre. En l'occurrence, pendant les discussions sur le projet de loi bioéthique qui auront lieu en septembre à l'Assemblée nationale. Mais l'avortement, c'est pas une question de bioéthique. C'est bien un droit des femmes, non négociable et pourtant sans cesse remis en question, tous les jours, quand les femmes en demandent l'accès, par les jugements, les délais d'attente trop longs, le manque de lieux ou encore l'absence de choix de la méthode. Alors l'exécutif temporise et propose que d'ici septembre, une mission d'information composée de députés sera chargée de dresser un état des lieux complet sur l'accès à l'IVG. Ces travaux seront pilotés par la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, dont la présidente, la députée Marie-Pierre Rixin de La République En Marche, indique être favorable à l'allongement du délai d'accès de l'IVG de 12 à 14 semaines. Alors ma foi, on est bien. On vous tiendra donc au courant à la rentrée de la suite de cette mascarade.
De nuit qui est organisée ce soir devance la marche des fiertés plus institutionnelle qui aura lieu demain à 14h. Et on a trouvé un appel pour se réapproprier cette marche des fiertés demain qu'on a envie de vous lire collectivement maintenant. Nos mortes sont politiques contre l'instrumentalisation de nos luttes à l'occasion de la marche des fiertés. Appel à un cortège de têtes radicales mixtes avec nos alliés contre l'instrumentalisation de nos luttes à l'occasion de la marche des fiertés de Lyon. Mort à l'État, mort au capitalisme rose, mort au système policier.
Nous sommes la honte de la nation parce que nous ne défilons pas lors du mois des fiertés pour célébrer l'amour. On ne veut pas de Disney Pride, de train ou de passage piéton aux couleurs LGBT, de photos d'élus jouant à l'homosexuel pour une photographie. On sait que lutter pour une égalité avec les hétéros ne fait que déplacer la norme et les privilèges à quelques personnes, les blancs, les blanches, les cis, les gens valides, et avec un capital économique, un logement et un travail. Ça ne change pas le système en soi. La Pride ne devrait pas être une question de célébrer tout ensemble la diversité des identités de genre et de sexualité, mais devrait questionner les oppressions que l'on vit et qui nous les fait subir. L'homophobie et la transphobie ne sont pas des discriminations dues à l'ignorance ou à la peur de ce qu'on ne connaît pas, elles font partie d'un système. L'État français n'est pas notre allié et il ne l'a jamais été, il est celui qui crée nos oppressions. Nous n'attendons pas de lui qu'il nous octroie le droit d'exister, ni qu'il nous tolère. L'ouverture d'esprit des personnes normées ne nous intéresse pas, tout comme leur acceptation. Nous sommes là, tels que nous sommes, déviants, déviantes, hors normes.
Mort à l'État, chaque année, des élus se permettent de prendre la tête de la manifestation et arborer des grands sourires devant les photographes. Ces guignols pensent que nous avons oublié la loi asile-immigration qui expulse les migrants et les migrantes et la loi qui pénalise les clients de travailleurs-travailleuses du sexe.
Mort au capitalisme rose. Dans les autres Pride en France, des chars Mastercard, Tinder, placés devant des assos militantes comme ACT UP. Tous ces chiens de garde se montrent au grand jour chaque année pour faire de nous des consommateurs et des consommatrices obéissants et obéissantes.
Mort au système policier. La Pride devait être la question de qui vit et qui meurt. On a vu des cortèges de flics en uniforme arrosant les gens avec des pistolets à eau. La première Pride était à la base une émeute faite par des femmes trans, noires, TDS, qui étaient réprimées par la police. La Pride a des origines de lutte contre le racisme, la transphobie et la putophobie. Les personnes allant à la Pride ne devraient pas se contenter de slogans « Love is love », ni de servir de caution de modernité au gouvernement pour qu'ils continuent d'imposer leur impérialisme à des fins colonialistes. Nous ne voulons ni flics ni État dans nos prides.
En Belgique, à Bruxelles, un cortège radical a été stoppé par la police, dénoncé par l'organisation de la Pride elle-même. La seule action que nous allons faire est de se placer devant les élus pour montrer notre désaccord avec la place qui leur est attribuée, mais aussi pour rendre visible une parole plus contestataire. Si l'organisation de la Pride est amenée à se désolidariser de notre cortège dans le but d'une intervention par la police, elle marquera l'acceptation de l'homonationalisme et se rendra complice du pinkwashing de l'État, privilégiant une vision sécuritaire, oppressive et pro-répression à la dénonciation d'un système LGBTQI-phobe.
Nous, trans, PD, bi, gwyn, non-binaire, tafiole, goudou, travelo, pédale, genderqueer, mec à vagin, meuf à bite, intersexe, c'est à nous de nous poser les questions de notre instrumentalisation. Voulons-nous d'une Pride qui a pour seul objectif, sous couvert d'acceptation, de faire rentrer les gays dans la norme hétérosexuelle ? Cher élu, votre mariage ne nous libère pas, ni votre idéal d'amour romantique, avec sa vision binaire à but capitaliste qui se terminera de toute façon par un divorce. Pour autant, laissez-nous nous marier à trois avant que cette institution s'effondre, juste pour avoir les papiers. Laissez-nous nous marier, laissez-nous des mariages entre potes Gwyn, finir notre vie avec nos godmichets, avoir trois papas, dont un enceint, dans nos communautés queer, faire nos familles comme on l'entend, comme on le veut.
Dans une marche où le mot d'ordre est face au racisme et aux LGBTI-phobies, unissons-nous, rappelons ensemble à l'État qu'il n'y a pas sa place. Il n'y a pas sa place. Ces choix ont des intérêts capitalistes. Ces choix définissent qui peut et qui a le droit de rester en vie. Nos mortes et nos morts sont politiques. Alors la Pride doit l'être aussi. Cette vie, elle ne l'avait pas voulu. Et au fond, ça n'avait pas tellement d'importance. Chez elle, tout le monde ou presque faisait son chemin, comme ça, de la maternelle au bac. Un job, le mariage, deux mômes, les vacances, le chant, le samedi, le dimanche dans sa belle famille. Avec un peu de chance, et si le banquier était d'accord, on se faisait construire une petite maison un peu loin, un crédit de plus. Il y avait déjà les deux bagnoles, le scout du grand qui allait au lycée pro à 25 bornes de là, et puis 7 LM, parce que les machines à laver crèvent toujours en même temps que la chaudière. C'est une règle. Cette vie, elle s'était dévidée vite, en somme, épuisante et belle, continuellement contrainte, rognée aux deux bouts, mais le mégotage n'empêche pas le bonheur. Bien sûr, les mecs faisaient chier. Le mari qui ronfle les rouspettes, des mains baladeuses, les chefs qui coupent la parole, les gamins qui, dès 15 ans, sont d'épouvantables petites brutes et qu'on attend la nuit, les yeux grands ouverts dans son lit, parce qu'ils zonent, ou on ne sait où, fumant des bédos et enquillant les vodka Red Bull. Mais c'était sa vie en somme. Elle avait sa part, des baisers derrière le gymnase du bahut, une culotte qui glisse, le petit qui mange le dentifrice au lieu de se brosser les dents, son feuilleton sur la 3, les copines pour faire des tours en ville. Pas souvent, mais quand même. Seulement il s'était produit ça, sur ce rond-point. Elle avait connu autre chose. Un déchirement dans la toile uniforme des jours. Et soudain, ce sentiment de poisse, cette main sur sa nuque, la résignation qui lui tenait lieu de sagesse, s'était évanouie. Depuis, elle avait beau faire, une impression de grand écran ne la quittait plus. On pouvait les traiter de tout, de fachos, d'ignards, de salauds, et après. Jamais une injure ne pouvait rien contre cette vie ressuscitée. Jamais leur beau discours ne lui ôterait cette découverte. Elle s'appartenait. À présent, elle était lasse, abattue, elle avait peur. Le vent tournait. Mais elle était sans regret.
Canu Info.
Partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet.
Rubrique Crève.
Vive la République, vive la France.
Les mouvements sociaux.
Mais notre règne arrivera. Votre règne finira.
Rien ni personne ne pourra étouffer une révolte. Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les doigts.
Mayday.
Mayday.
Et oui, les grèves se succèdent en ce moment. Et là, on avait envie de vous parler d'une grève qui va avoir lieu lundi prochain et qui va peut-être faire du bruit. Ça va être la grève des examens du bac. Alors, lundi 17 juin, amplifions le rapport de force contre les lois Blanquer, la réforme du lycée et Parcoursup. L'intersyndicale appelle donc à une grève des examens et à des manifestations pour le début du bac lundi. Depuis plusieurs mois, les personnels de l'éducation se mobilisent dans de nombreux établissements et se sont rassemblés dans des actions nationales d'ampleur contre les réformes du lycée et du baccalauréat, de la voie professionnelle, la loi dite de la confiance et l'ensemble des transformations du système éducatif imposées par le ministre. Mais Jean-Michel Blanquer n'a jusque-là répondu que par le refus de toute discussion. Sur le site de Libé, on pouvait lire mardi une tribune « Pas de tri sélectif dans l'école de la République ». Selon cette tribune, la réforme Blanquer repose, de la maternelle au lycée, sur une application du libéralisme économique à l'éducation. Le projet de loi donc creuse encore les inégalités. Pire, il les érige en principe. L'école est une chose trop grave pour la confier au seul ministre de l'Éducation nationale, elle est un bien commun. Que nous ayons des enfants ou pas, elle nous concerne. Bien sûr, elle ne saurait elle seule faire face aux iniquités qui structurent notre monde et sournoisement s'érige en système. Mais elle occupe pour y résister une place essentielle, celle qui rend possible pensée critique et action sur le monde. L'assignation à l'exemplarité martelée par l'article 1 du projet Blanquer est une façon de jeter la suspicion sur le corps enseignant. Pourtant, sa capacité critique est nécessaire pour ne pas accepter le monde tel qu'il est, tel qu'il va, pour ne pas intégrer sans broncher les réformes, comme si elles allaient de soi. À Dijon, une enseignante a été convoquée pour avoir expliqué dans une lettre son opposition à Emmanuel Macron. À l'ODEV, un enseignant a reçu une admonestation pour avoir pointé du doigt la suppression des directrices et directeurs d'école avec le projet de loi. Au Havre, une directrice d'école a été blâmée et mutée pour avoir critiqué la réforme en écrivant aux parents. Beaucoup d'autres ont reçu des courriers de mise en garde contre l'expression de leur contestation. Ce n'est rien de moins qu'une mise au pas, rappel de l'ordre, disent les sanctions. Il s'agit bien de cela, rappel à un ordre contestable qui trop souvent nous enjoint de nous taire et d'accepter sans autre forme de procès. Cette nouvelle réforme repose de la maternelle au lycée sur une application du libéralisme économique à l'éducation. En imposant la scolarité dès l'âge de 3 ans, le projet oblige les communes à financer les écoles privées. C'est inacceptable quand les services publics sont de plus en plus attaqués. Dès la maternelle, des établissements publics internationaux viendront donc concurrencer des établissements des savoirs fondamentaux. Un tri social sera alors organisé dès l'entrée à l'école. À tous les niveaux, tandis que l'on supprime des postes et que des classes sont fermées, des assistantes et des assistants d'éducation pourront enseigner pour faire face à la pénurie des moyens humains, sans formation et avec des salaires au rabais. Et comme on le sait, les drapeaux imposés dans toutes les salles de classe ne sauront être les garants d'une liberté, égalité, fraternité bien abîmée. Ou peut-être serviront-ils à masquer des murs de classe bien défraîchis ? Mesures masques, rustines et rafistolage. Au lycée, le projet de loi exige que les élèves choisissent au plus vite des spécialités. Mais dans beaucoup d'établissements, certaines d'entre elles n'existent pas, tout simplement. Voilà qui va encore accentuer les inégalités. Dans ce prolongement, à l'université désormais, Parcoursup impose une sélection drastique, répand l'anxiété et l'exclusion parmi les jeunes et leurs familles, d'abord parmi les moins dotés. Nous en avons assez de ce monde marchand, de la mise en concurrence et de la compétitivité, dont les critères et les fausses valeurs entendent s'imposer partout, à la façon d'un rouleau compresseur. Il y a urgence à résister, et les gens résistent. Par exemple, à l'AG des grévistes du Rhône du 13 juin, comme à l'intersyndicale éducation, on a appelé à être en grève à partir du 17 juin, donc à partir de lundi prochain, date de début du bac, pour amplifier le rapport de force donc contre toutes ces lois. Il y a notamment un appel à la grève des examens, et à se réunir à partir de 7h30 devant les centres d'examen qui l'ont décidé, le lycée Jacques Brel à Vénissieux, le lycée Douaneau à Vaux-en-Velin par exemple, à un rassemblement devant le rectorat Lyon à partir de 9h30. À une manifestation entre le rectorat et la Bourse du Travail vers 11h, et à l'AG, qui se tiendra à la Bourse du Travail à 11h30, pour décider des suites du mouvement. Parce que comme l'a dit l'AG des grévistes éducation jeudi, donc le 13 juin, ni acceptable ni amendable, les mesures Blanquer dans leur ensemble suscitent le rejet de la profession. Selon le baromètre UNSA publié en mai dernier, seulement 6,5% de la profession soutient l'action du ministre. Inédit, ce soutien a ajouté de 17 points, ils ne sont plus que 32% à approuver la politique ministérielle. Depuis cet hiver, les lycéens, les associations disciplinaires, les associations de parents d'élèves, le Conseil supérieur de l'éducation ont exprimé leur refus de ces projets. Des sociologues, des chercheurs en sciences de l'éducation ont dénoncé un ensemble de mesures conduisant à la mise en place d'un système éducatif profondément et officiellement inégalitaire. la surdité du ministre à l'égard des critiques et des revendications pour un service d'éducation juste et émancipateur s'est transformée en autoritarisme menaçant. Nous exigeons donc le retrait de l'ensemble de ces réformes, la loi Blanquer dite pour l'école de la confiance, les réformes du bac du lycée général et professionnel, Parcoursup. Et donc voilà, donc je vous rappelle, le 17 juin, vous avez le choix entre à 7h30, vous rentrez devant les centres d'examen, vous rentrez devant le rectorat à partir de 9h30, à la manif à 11h, ou à l'AG qui se tiendra par la suite.
Et donc on espère que ce sera un mouvement d'ampleur dans l'éducation nationale, et il y a actuellement dans les services des urgences, notamment des hôpitaux, un mouvement en cours. Alors on a rencontré cette semaine une médecin urgentiste, on vous propose de l'entendre, d'entendre cet entretien, et puis on y a ajouté un petit média mix de ce que l'on a pu entendre ces derniers temps, de la mobilisation des urgentistes, à la fois dans la bouche de la ministre, mais également du personnel concerné. C'est un reportage qui est passé cette semaine dans Mayday.
Le droit de grève en médecine d'urgence, que ce soit chez les paramédicaux comme chez les médicaux, il est assez invisible parce que de toute façon, les gens sont réquisitionnés pour travailler. Ils le notent, c'est écrit sur les vitres des services, c'est écrit sur les blouses des soignants, mais les gens continuent quand même de travailler, quoi.
Ils en arrivent même, nous, dans notre service, à venir nous dire « Non, mangez pas, buvez pas là, sur votre poste de soins, mais vous n'avez pas le droit de quitter votre secteur de soins. »
On veut cette reconnaissance de la spécificité du travail d'urgence. On veut des effectifs qui sont en cohérence avec le nombre de passages chez nous. Et on veut des lits d'aval. Et on demande ça maintenant.
La fièvre aux urgences ou le mouvement de grève dure maintenant depuis plus de 2 mois.
À Lons-le-Saunier, dans le Jura, un nouveau cran a été atteint la semaine dernière, notamment lors du jeudi de l'Ascension. Le préfet a dû prendre des mesures de réquisition du personnel.
Nous sommes mardi dernier, Marie, infirmière aux urgences, est rentrée chez elle après une longue journée et avant son jour de repos, mais à 1h du matin.
Les gendarmes sont venus à la maison, ont réveillé tout le monde. Le but, c'était que je reçoive une réquisition pour aller travailler le lendemain matin à 7h. Donc non, j'ai rien signé. Je voulais pas être réquisitionnée. C'est pas une façon de travailler pour moi. On n'est pas des criminels.
C'est une grève qui a lieu dans quelques hôpitaux, qui est en fait liée à des problèmes de sécurité. Je ne nie pas les conditions de travail, mais ce n'est pas ce qui a déclenché la grève à l'assistance publique.
Une réquisition ordonnée par le préfet en accord avec la direction, car les urgences de Lons-le-Saunier sont en sous-effectif chronique depuis des mois. Les arrêts maladie se multiplient chez les infirmières comme chez les médecins, explique le docteur Éric Loupiac, urgentiste.
Il faudrait que pour les urgences et le SMUR, nous soyons 6 médecins le jour et 4 la nuit. Nous sommes 3 le jour et 3 la nuit en ce moment.
Mais j'ai envie de dire, les incivilités, elles ne sont pas que de la part des patients. Il faut aussi voir comment on traite les collègues. La ministre qui nous désavoue des arrêts maladie, on n'en peut plus de ce genre de réponse.
Des arrêts maladie de complaisance, estime le directeur de l'hôpital, Guillaume Ducolon.
Nous avons quelques médecins qui ont franchi une ligne rouge en utilisant l'arrêt maladie comme moyen de pression dans le débat. C'est grave.
Ce qu'a fait Madame Buzyn, c'est de nous culpabiliser. Il faudrait qu'elle vienne se rendre compte sur le terrain ce que c'est de travailler. Et je pense qu'elle s'est rendue compte que la fatigue physique et psychologique, elle est vraiment présente.
L'hôpital a fait face quand il y a eu la canicule. Il a fait face quand il y a eu l'épidémie de sida. Bon, là, on ne peut plus faire face. C'est-à-dire que si on a un problème de santé, une épidémie aiguë, il n'y a plus de marge.
Mayday, 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 mayday.
Bonjour, je m'appelle Agathe, je suis médecin urgentiste dans un centre hospitalier universitaire depuis maintenant quelques années.
Mayday.
Entre la fin des années 90 et aujourd'hui, le nombre de consultations aux urgences, il a plus que doublé. Et les effectifs, eux, ils ont augmenté, certes, mais enfin, ils n'ont pas du tout suivi la courbe de fréquentation. Par ailleurs, cette augmentation de fréquentation, elle s'explique par plusieurs choses. Donc, le vieillissement de la population, qui fait qu'effectivement, les personnes âgées sont plus fragiles, elles sont plus amenées à être hospitalisées. Il y a aussi, comme on le sait beaucoup, une diminution du nombre de médecins généralistes. Et du coup, ça réduit considérablement la possibilité d'accueil du patient en médecine libérale. Et du coup, les gens sont quand même amenés à se présenter, malgré eux, dans les services d'urgence.
Bonjour.
En médecine d'urgence, on a un peu l'impression de faire de la médecine de guerre en permanence, parce qu'on n'est pas assez nombreux, parce qu'on n'a pas le matériel qu'il faut, parce que les locaux sont vraiment souvent désastreux. Et du coup, les problèmes auxquels on est confronté majoritairement, c'est le temps d'attente, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller le plus vite possible pour essayer de réduire au maximum le temps d'attente des patients. Et ça, parce qu'on sait que ça joue sur leur agressivité, mais aussi que ça joue sur leur santé, bien sûr. Et du coup, on essaye sans cesse de faire au plus vite pour pouvoir passer au patient suivant et réduire les délais d'attente. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à toutes les étapes de la consultation que c'est comme ça. Les gens attendent quand ils n'ont pas encore vu le médecin, ils attendent après les résultats de la prise de sang, ils attendent après quand on a besoin de leur faire passer un scanner ou bien une radio. Ça peut vite prendre plusieurs heures, voire une demi-journée. Après, les autres problèmes auxquels on est confronté, c'est les problèmes des lits d'aval. Le nombre de lits d'hospitalisation diminue. Ça fait que du coup, les patients, quand bien même on a fini la prise en charge aux urgences, attendent dans les couloirs qu'il y ait des lits qui se libèrent pour pouvoir les recevoir. Et pendant qu'on continue à s'occuper de ces personnes-là, malheureusement, on n'a pas le temps de s'occuper de ceux qui arrivent, quoi. Donc il y a une espèce d'engrenage comme ça qui fait que donc les délais d'attente aux urgences sont très très longs. En fait, les services d'accueil des urgences, c'est des services où et les médecins sont jeunes, et les infirmiers sont jeunes, et les aides-soignants sont jeunes, parce que c'est des services où les gens ne tiennent pas sur la durée, en fait. Et ça, c'est un vrai problème, parce que la médecine, c'est quand même quelque chose qui s'apprend avec l'expérience et la transmission des collègues. Et donc, d'être sans cesse entouré de jeunes praticiens, de jeunes infirmiers, je pense que c'est quelque chose qui est délétère aussi pour les patients. Il va falloir réfléchir aussi à comment faire en sorte que la médecine d'urgence redevienne un endroit où les gens prennent du plaisir à travailler. Parce qu'en dehors de ça, c'est quand même un domaine de la médecine qui est vraiment passionnant. Et c'est dommage d'en arriver là où on en est aujourd'hui. Bon, il y a aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a une fuite des professionnels urgentistes vers les cliniques privées, en fait, parce que les conditions d'accueil du patient ne sont pas les mêmes, hein, que les conditions salariales ne sont pas les mêmes. Voilà, peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Les gens sont en tension permanente et je pense que c'est dans beaucoup de milieux aujourd'hui comme ça, on a l'impression de gérer la crise en permanence, mais là, ce qui est compliqué en particulier, c'est que c'est de la médecine, quoi. Du coup, c'est la vie des gens, quoi. Donc, bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué qu'un autre domaine. Hein. Puis, bon, je pense que on a l'impression que tout ça, c'est quelque chose qui est programmé, en fait. Hein. Quand on voit un peu la gestion politique du moment, on a l'impression que oui, que dans quelques années, on va nous dire oui, effectivement, le service public hospitalier, il va fermer parce qu'il répond plus aux attentes des patients, et tout le monde se dira en fait, heureusement que ça ferme, parce que vu ce que c'était devenu, c'était quelque chose de dangereux, quoi. Mais ça, c'est des décisions gouvernementales, quoi. Ce qu'on constate quand même depuis quelques dizaines d'années, c'est et d'un côté, l'émergence de cliniques privées dans toutes les grandes villes de France qui commence vraiment à faire une réelle concurrence d'attractivité, que ce soit pour les professionnels comme pour les patients. Et voilà. Tous les services d'accueil des urgences qui sont dénommés comme tels, ils ont les subventions pour soigner toute la population, y compris la population qui n'a pas de couverture sociale. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a des cliniques qui acceptent, des cliniques qui refusent. Parmi les cliniques qui acceptent, en fait, la programmation ultérieure des soins, elle est beaucoup plus complexe pour les personnes qui n'ont pas de couverture sociale. C'est un espèce de cercle vicieux, puisque de fait, on finit par trier la patientèle. Et oui, la patientèle des services publics, elle est souvent plus complexe et plus riche que la... riche, je veux dire culturellement, que la patientèle des cliniques. Et oui, soigner un patient qui ne parle pas la même langue que soi, soigner un patient qui a des problèmes d'origine psychiatrique ou autre, ça prend plus de temps. Et du coup, il faut aussi réfléchir à penser les effectifs avec ça derrière la tête, quoi.
Canu Info du vendredi.
Plus fort que les stars. Et oui, vous êtes toujours sur le Canu Info du vendredi. Et alors que du coup les mobilisations s'intensifient, que ce soit du côté de l'éducation nationale ou des urgences, plutôt que de répondre aux revendications des manifestants et des manifestantes, le ministre de l'Intérieur a jugé bon de commander en masse des munitions pour fusils d'assaut et grenades de désencerclement. Il faut peut-être déjà rappeler que l'utilisation par la police des lanceurs de balles de défense et de grenades de désencerclement ont augmenté de 200% en 2018, selon des chiffres diffusés hier par l'inspection générale de la police nationale. Et oui, alors, on va parler chiffres dans ce petit point, mais en 2018, les policiers ont tiré 19 071 munitions de lanceurs de balles de défense, les LBD, et lancé 5 420 munitions de grenades de désencerclement. Donc, soit une hausse de 203%, 3 fois plus, et 296%, près de 4 fois plus, qu'en 2017. Et juste pour la période du 17 novembre au 31 décembre, ça représente pour les seules manifestations de gilets jaunes près du tiers des déclarations d'usage de lanceurs de 40, donc le lanceur de balles de défense, a détaillé la directrice de l'IGPN, Brigitte Julien, lors d'un point presse. Pour la grenade de désencerclement, cette période concentre 72% de l'augmentation enregistrée. Et alors que les nouvelles armes de maintien de l'ordre et de gestion démocratique des foules sont responsables de dizaines de mutilations à vie et de blessures graves, donc le ministère de l'Intérieur vient d'entériner de nouvelles commandes massives. C'est pas loin de 10 000 grenades de désencerclement par an qui s'ajoutent aux centaines de lanceurs de balles de défense achetés en fin d'année dernière. Plus inquiétant encore, la place Beauvau a acheté 25 millions de cartouches de fusils d'assaut pour les 4 prochaines années. Cette banalisation des fusils d'assaut n'est pas sans poser problème. En juillet 2017, une note de l'inspection générale de la police nationale, donc on remarquera qu'on cite vraiment l'IGPN, fait quand même état de sa réelle inquiétude parce que 18 des 19 tirs de ces armes enregistrés sur les 6 premiers mois de l'année avaient été accidentels, oui, du coup tous sauf un, ou commis par imprudence, un pourcentage du coup qualifié par l'IGPN d'alarmant, oui, enfin c'est au moins alarmant quoi. Et donc l'IGPN continue, une ou plusieurs erreurs, souvent cumulées, dans les procédures de mise en sécurité sont à l'origine des coups de feu, souligne la note qui déplore donc une méconnaissance bien plus étendue en matière de sécurité lors de la manipulation des armes et un défaut de maîtrise d'armes plus complexe et encombrante. Sélecteur mis en position rafale par exemple, chargeur non retiré, culasse bloquée à coup d'un mauvais geste, etc. Jusqu'à 750 balles par minute mortelles, jusqu'à 2 km. Ça va être l'HKG-36. Donc doté d'un chargeur 30 coups, le HKG-36 est une arme de guerre pouvant tirer en rafale, donc jusqu'à 750 balles minute mortelles, jusqu'à 2 km. Et au 1er janvier 2017, le ministère de l'Intérieur répertoriait 9 469 fusils d'assaut de ce type, dont 8 545 pour la police nationale, en augmentation donc de 68% par rapport à 2012. Rapporté au chiffre des 6,25 millions de munitions commandées par an, donc chaque fusil d'assaut serait dès lors potentiellement doté de 22 chargeurs chaque année, alors que quand même on le rappelle, ces armes sont censées n'être utilisées qu'exceptionnellement. Le Canard Enchaîné a révélé qu'un télégramme du 10 janvier 2019 avait demandé au CRS de déployer 2 fusils d'assaut HKG-36 lors des manifestations des Gilets jaunes, au motif, et on ne rigole pas, que si nos hommes portent leurs fusils d'assaut, c'est pour ne pas se les faire voler dans le camion, comme cela est arrivé en décembre dernier. Donc vraiment, sans sourciller, les CRS justifient le fait de porter des fusils d'assaut face à des manifestations déclarées pour ne pas se les faire voler. Allons maintenant du côté des grenades de désencerclement qui, on le rappelle, sont classées matériel de guerre. Donc depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le ministère de l'Intérieur a reconnu 4 942 tirs de grenades de désencerclement contre 866 pour toute l'année 2016. Comme le LBD, ces grenades sont une arme classée matériel de guerre de catégorie A2, ce qui interdit donc aux particuliers d'en faire l'acquisition. De son côté, le journaliste David Dufresne a collecté 99 signalements afférents, dont 27 blessures à la tête, 4 à l'œil et 3 éborgnements. Donc les grenades doivent être lancées à la main et roulées au sol normalement.
Un CRS vient par ailleurs d'être renvoyé aux assises pour avoir éborgné un syndicaliste en 2016 lors de la mobilisation contre la loi travail. Il n'avait pas été formé au maintien de l'ordre, n'était pas habilité à lancer des grenades et le lancer de la grenade n'était pas légalement justifié. Les CRS de sa compagnie n'étaient ni assaillis, ni encerclés, ni même réellement pris à partie. Étrangement, le ministère public avait soutenu pour sa défense que la perte d'un œil n'était pas une infirmité permanente car la victime pouvait se faire poser un implant. Donc voilà, on apprend qu'il est tout à fait normal que les CRS se baladent avec des fusils d'assaut et que ce n'est vraiment pas grave de perdre un œil dans une manifestation. Enfin, finalement, qu'importe ces dégâts collatéraux, le ministère de l'Intérieur vient donc de conclure une nouvelle commande, publiée le 1er mai au journal officiel, comme je vous le disais, 10 000 grenades par an, donc soit 40 000 sur la durée du marché. C'est donc LCTEX qui a remporté le contrat d'une valeur de 1,84 million d'euros. On tient quand même à rappeler que dans son bilan, à l'Oplace Beauvau, David Dufresne a collecté 297 signalements liés à des tirs de LBD, dont 19 éborgnements. Et dans la dernière mise à jour de sa brochure sur les armements et le maintien de l'ordre, le collectif Désarmons-les a répertorié, depuis l'instauration du flashball en 1999, progressivement remplacé par le LBD, puis de la grenade de désencerclement en 2004, près de 60 personnes qui ont été éborgnées ou gravement blessées à l'œil en l'espace de 20 ans. La majorité l'a été lors des 8 derniers mois, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018. Mais Kasnan Tien, la chef de l'IGPN, réfute totalement le terme de violence policière sur les Gilets jaunes. Alors revenons un peu sur ce cas Brigitte Julien quand même. Donc Brigitte Julien, la chef de l'inspection générale de la police nationale, a présenté hier le rapport d'activité de la police des polices pour 2018. Alors quand même Brigitte Julien nous informe qu'au total, du 17 novembre 2018 au 8 juin, l'IGPN a reçu 555 signalements sur sa plateforme mise à disposition du public, que 265 enquêtes judiciaires ont été ouvertes et que parmi celles-ci, 105, soit 45%, sont terminées et ont été renvoyées aux différents parquets pour analyse. Dans une majorité de cas, d'après Brigitte Julien, les policiers n'ont pas pu être identifiés puisque beaucoup de victimes présumées ne sont pas parvenues à déterminer les lieux et horaires précis des faits. Et dans certaines villes ou rues, il n'existe pas de vidéoprotection. On est quand même un peu étonné que les gens ne se souviennent plus à quelle manifestation ou quand ils auraient été blessés ou brutalisés par la police. Et aussi étonné de se dire que c'est le manque de vidéoprotection qui... joue pour ne pas amener en justice les policiers. On a posé un peu d'autres questions à Brigitte Julien.
Et alors, comment expliquez-vous qu'aucun policier ne soit suspendu à ce jour ?
Alors Brigitte Julien a évidemment une réponse pour ça. Elle nous explique que pour qu'il y ait suspension, il faut qu'il y ait faute. Or, à ce jour, aucune enquête n'a permis de conclure que la responsabilité d'un policier était engagée à titre individuel. C'est assez facile quand on retire son numéro d'immatriculation. Pourtant, les vidéos circulent quand même pas mal et on se demande pourquoi elles ne sont pas encore utilisées dans ces procédures judiciaires.
Mais alors, y a-t-il eu, selon vous, des violences policières ?
Et alors là, Brigitte Julien est formelle. Je réfute totalement le terme de violence policière. D'après elle, il y a eu des blessures commises à l'occasion de manifestations durant lesquelles la police a fait usage de la force. Notre travail est de chercher à savoir si cet usage était légitime et proportionné. Nous devons évaluer la proportionnalité et la légalité de la riposte. Il y a peut-être eu des situations où cela n'a pas été le cas, mais il est encore trop tôt pour le dire. Il y a vraiment une négation de la part même de l'IGPN qui est censé faire le contrôle de la police, de tout ce que les réseaux sociaux ont en tout cas pour partie permis de rendre visible depuis plus d'un mois, mais en fait depuis plusieurs années, c'est-à-dire une violence quotidienne de la police dans les quartiers et dans les manifestations de Gilets jaunes.
Et alors on a le sentiment d'une justice à deux vitesses. Les manifestants sont jugés très rapidement alors que les sanctions contre les policiers tardent à venir, elles.
Et là encore, Brigitte Julien n'est pas surprise puisque d'après elle, elle conçoit que ce décalage dans le temps soit mal compris. Puisque toujours selon elle, policiers et manifestants ne se trouvent pas dans la même situation. Quand on participe à une manifestation non déclarée, alors là encore c'est vraiment de la manipulation parce que beaucoup des manifestants sont déclarés en plus, et qu'on commet des exactions, là encore souvent personne ne commet rien, qu'on est interpellé en flagrant délit, il est logique que l'on passe rapidement devant le tribunal. Le policier, lui, se trouve dans une situation différente, d'après Brigitte Julien. La loi lui confère le droit de recourir à la force, ce qui est en soi une violence. Il faut déterminer si cet usage est légitime. Et c'est peut-être là, finalement, toute la question, et peut-être là où on peut rejoindre Brigitte Julien. Où est-ce que la violence, et quand est-ce que la violence est légitime, et quand est-ce qu'on va remettre en cause cette violence de l'État qui est permanente, omniprésente, et qui mutile, blesse des centaines et des milliers de personnes par an.
Plus fort que les stars vêtus des noirs, la peau colorée, on porte l'espoir jusqu'à dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle, on chante les soirs, on arrache la lune jusqu'à dans les étoiles. Et du fond de la nuit, on chante la puissance, la vie. Quand on arrive en ville, il y a comme un débordement dans la piscine. Débordement. Le monde demande débordement.
Tu écoutes Jardin, débordement sur le 102.2, le rap conscient, c'est pas toujours chiant.
On est plus fort que les stars, vêtus de noir. La peau colorée, on porte l'espoir jusque dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle. On chante le soir, on arrache la lune jusque dans les étoiles. Dans les étoiles.
C'est qui je suis? On s'en bat la schneck. Avec elle, avec lui, je te découpe en steak. Futur végétal, on est des centaines pressés à presser la pastèque. Ouais, c'est déjà la fête. La fin des Aztèques, futur végétatif. On fait du sale-sale, pétrole ou sniff. Mets du gel, du glitter sur les paupières. Tape les fesses dans la rue, les doigts en l'air. J'envoie des messages de paix pour le ferry. Pour les petits perdus de Bruxelles à Paris. Y'a tellement pas de lien, qu'est-ce qui nous vient? De pas manger les autres au lieu de ronger nos freins. Tu vas manger ma joie, voir le sang des six stars. Marée de corps arrive sur toi, tu vas manger ma Felicita. Ah, Felicita.
On est plus fort que les stars, vêtus de noir. La peau colorée, on porte l'espoir jusque dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle. On chante les soirs, on arrache la lune jusque dans les étoiles. Dans les étoiles. Et du fond de la nuit, on chante la puissance et la vie. Quand on arrive en ville, y'a comme un débordement dans la piscine. Débordement, le monde demande. Débordement, débordement. On est plus fort que les stars, vêtus de noir. La peau colorée, on porte l'espoir jusque dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle. On chante le soir, on arrache la lune jusque dans les étoiles. Et du fond de la nuit, on chante la puissance et la vie. Quand on arrive en ville, y'a comme un débordement dans la piscine. Débordement, le monde demande. Débordement, débordement.
Allô?
Allô, coucou.
Coucou, reporter de l'enfer, dis-moi, où es-tu?
Eh bien, je suis place Guichard en direct, voilà, pour le départ de la parade de nuit.
Ok, et donc il y a du monde sur cette place Guichard déjà?
Là, il n'y a encore pas trop de monde, mais je pense que ça va arriver. Les gens arrivent pile à l'heure, quoi.
Ok. Et alors, tu peux un peu nous décrire l'ambiance, peut-être?
Il y a plein de gens avec des paillettes, des drapeaux, des petits bandanas fluo rose. Eux, ils font. Peut-être que tu peux nous dire un mot. Alors, je suis avec Edgar qui fait partie de l'organisation.
Ah, super. Vous en dire un mot. Allez, vas-y. On t'écoute.
Bonsoir les radionautes, bonsoir tout le monde. On est en direct de la place Guichard, il est bientôt 20h et ça va être le départ de la Pride de nuit. Manifestation en non-mixité, sans personnes hétéro, pour revendiquer nos droits en tant que personnes queer et pour critiquer aussi les politiques capitalistes et assimilationnistes de la Pride de jour qui aura lieu demain.
Ok.
Il y a aussi des travailleuses du sexe avec nous. Enfin, elles sont les bienvenues.
D'accord. Okay.
Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je sais pas.
Vous attendez beaucoup de monde?
Je sais absolument pas. Là, on doit être une cinquantaine sur la place pour l'instant.
Mais okay. Si, il y a tout un groupe de drag queens qui se prépare, j'ai des infos inside.
Okay. Il y a un cortège de tête drag queen qui va arriver.
Ok, et là si on veut vous retrouver, du coup c'est place Guichard et après c'est peut-être le trajet en gros ou c'est pour aller jusqu'où, où est-ce qu'on peut vous retrouver en cours de route?
Le trajet a été resté relativement secret pour des questions de sécurité, donc je ne peux pas vous le communiquer, je suis okay. Désolée.
Donc venez à courir place Guichard.
Mais il faut qu'on accourt place Guichard, ok, ça marche. Et du coup on ne sait pas s'il y a quelque chose de prévu après ou tout ça, c'est secret aussi?
Après non, pas particulièrement.
Tu veux savoir si okay. Une histoire?
Non, pas du tout, c'était pas ça ma question.
non, c'est censé durer, ça, on va marcher pendant 2-3 heures à peu près.
Ok, d'accord, super, donc on vous croisera peut-être si on ne vous rejoint pas alors.
Bien,
ça marche.
C'est tout pour moi, merci beaucoup de nous avoir laissé l'antenne 2 minutes.
Eh bien, pas de souci. Merci à vous pour ce petit inside Place Guichard et pour le début de la Pride.
Ciao.
Le fond que les stars vêtus de noir, la peau colorée, emporte l'espoir jusqu'à dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle. On chante le soir, on arrache la lune jusqu'à dans les étoiles. Et du fond de la nuit, on chante la puissance de la vie. Quand on arrive en ville, il y a comme un débordement dans la piscine. Débordement. Le monde demande débordement.
On fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda.
Et ouais. Ah. Non, on va quand même dire 2-3 trucs pour l'agenda avant d'enchaîner sur la suite. Du coup, eh ben oui, vous l'aurez compris, ce soir, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a la Pride de nuit. Donc voilà, moi, je veux pas tout vous redire. Mais voilà, ça va être une marche qui va durer, donc vous venez de l'entendre, 2-3 heures. Dans Lyon, et c'est une marche en mixité choisie. Donc ça, c'est pour ce soir, et c'est départ Place Guichard. Donc voilà, et ça démarre dans 5 minutes. Du coup, voilà. Demain, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a la marche des fiertés, et il y a un appel, justement, pour faire un cortège de tête un peu plus radical. Donc voilà, pour dénoncer l'instrumentalisation, des luttes, donc voilà. Donc c'est relatif au communiqué qu'on vous a lu tout à l'heure, notamment, et c'est départ Place Bellecour, et c'est entre 14h et 18h. Vous pourrez aussi à 17h aller à une rencontre débat autour des enseignements de la Révolution en 1936 en Espagne. Donc voilà, ça se passe à la Griffe. Et donc c'est à 17h, la Griffe, que j'ai oublié l'adresse précise, mais c'est rue Sébastien Griffe. Voilà. Ensuite, le 17 juin, lundi, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est la grève. Et oui, la grève des examens. Parce que, voilà, donc contre la loi Blanquer, la réforme du lycée, etc. Donc ça va toute la journée, hein, parce que c'est la grève. Et donc le programme, on vous l'a dit aussi pendant ce Camion Info, mais je vous le rappelle. Donc il y a déjà un appel à se réunir dès 7h30 du matin devant les centres d'examen. Donc notamment, donc il y a le lycée Jacques Brel à Vénissieux, pardon, le lycée Doineau à Vaulx-en-Velin. Donc après il y a un rassemblement devant le rectorat. Alors après voilà, c'est faut choisir un peu entre les deux quoi, mais il y a un rassemblement aussi devant le rectorat de Lyon à 9h30. Il y a une manifestation donc entre le rectorat et la Bourse du Travail, donc vers 11h, et il y a une AG qui se tiendra donc à 11h30 à la Bourse du Travail. Et donc ça, c'est le lundi 17 juin. Et donc le lundi, rien à voir, mais il y a la permanence juridique, donc toujours de soutien aux sans-papiers, donc qui a lieu entre 18h30 et 20h. Donc ça se passe à la Lutine, 91 rue Montesquieu. Le mardi 18 juin, figurez-vous que c'est la 27e édition de l'appel du 18 juin. Donc voilà, donc c'est le soir, entre 18h et minuit, et ça c'est organisé par le collectif d'information et de recherche cannabique.
Il paraît qu'on fume des joints depuis des millénaires, j'ai lu un article scientifique là-dessus.
Et ben voilà, et du coup...
des scientifiques, ça doit être important.
C'est que c'est... voilà. Et donc, le collectif d'information et de recherche cannabique, donc le CIRC, donc organise son rassemblement festif annuel pour réclamer une réforme de la politique en matière de cannabis. Et donc ça va se passer sur le parc des Berges, Lyon 7e. Donc le parc des Berges, c'est vers Stade de Jarlan, un peu par là-bas. Donc voilà, il y aura plein de trucs, des buvettes, des stands d'information, des prises de parole, etc. Le 19 juin, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc, si vous voulez, il y a un peu une jonction entre musique libre et logiciel libre. Donc ça se passe au CCO La Rayonne. Donc c'est pas le CCO, enfin c'est à Villeurbanne, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est pas le CCO, comment dire ? Qui est vers... voilà, que tout le monde... Aidez-moi c'est plus vers Vaulx-en-Velin.
Du CCO qui est plutôt vers Vaulx-en-Velin.
Voilà, qui est plutôt vers Vaulx-en-Velin, voilà. J'ai pas l'adresse précise, désolé. Donc voilà, donc ça c'est entre 18h et 23h. Donc voilà, le 20 juin, vous pouvez découvrir l'auto-école buissonnière à l'Amicale. Donc voilà, il y a une... ils se réunissent tous les troisième jeudi du mois là-bas. Donc vous pouvez aller les rencontrer, c'est entre 18h et 20h. Et puis également, il y a aussi un atelier groupe de soins, donc addiction, comprendre les mécanismes pour mieux les gérer. Donc ça c'est entre 19h et 21h et c'est toujours à l'Amicale et c'est toujours le jeudi 20 juin. Voilà.
Radio Canu.
Canu Info du vendredi.
Et oui, alors... j'ai des sons de cloche. ACAB, voilà, ACAB, ça veut dire... faut que je l'invente sur le coup. Non, eh ben, on n'a qu'à dire que ça veut dire, en tout cas aujourd'hui et pour le lundi 17 juin, ça voudra dire aussi action chaleureuse anti-bac. Voilà.
On a été le premier groupe à être banni d'Angleterre. Leur musique était jugée offensante par les associations parents.
Les paroles de certaines chansons peuvent-elles être à l'origine de troubles de l'ordre public ? C'est en tout cas la crainte de la Confédération nationale des associations familiales catholiques.
Noise pollution.
Il s'agit
de texte qui incite l'auditeur à se suicider, à tirer, à appuyer sur la gâchette. Jusqu'où on peut aller sous le bénéfice du folklore.
On peut habituellement reconnaître les fans de heavy metal à ce qu'ils portent.
Couleur noire est essentielle.
J'ai rencontré des gens qui écoutaient du métal. Et cette violence tout de suite, cette violence, ces coups qui tapent dans les oreilles, tout de suite ça m'a plu. Et je suis rentré dedans tout de suite en fait. C'est comme il y a des onctions du Saint-Esprit, moi j'ai reçu une onction métal d'un seul coup.